interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo dorime. Ameno, o manare imperavi, ameno, timere, timere, mangiremo, ameno.
Et bonjour, Fréquence Mistral est très heureuse de retrouver un auteur manosquin, Didier Lauterborn, bonjour.
Oui, bonjour Léa et bonjour aux éditeurs de Fréquence Mistral. Toujours un plaisir de venir dans vos locaux.
Vous avez sorti il y a un mois votre quatrième roman.
Oui, c'est exact. Donc c'est le quatrième roman qui s'appelle Le Chevalier de Théopolis et qui est donc le dernier tome d'une trilogie. Et dans cette trilogie, je choisis des héros, en fait, qui sont des personnages tout à fait ordinaires et qui deviennent des héros au grand cœur, porteurs de valeurs spirituelles, pour vous résumer un petit peu.
En quelques mots, quelles sont les inspirations du Chevalier de Théopolis ?
Alors, Chevalier de Théopolis fait écho à mes trois précédents ouvrages. Donc, à la racine, il y a bien évidemment Tolkien, avec Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, Star Wars, Dan Brown et Umberto Eco. Voilà, pour vous résumer un petit peu ma lignée. Pour Le Chevalier de Théopolis, j'ai divergé un petit peu et je me suis inspiré du cinéma, notamment d'un film qui s'appelle Highlander, avec Christophe Lambert, dans lequel le héros avait le pouvoir d'une certaine lignée. Hein, donc il retrouvait cette lignée, le clan des MacLeod. Et moi j'ai voulu faire pareil, mais de manière beaucoup plus simple et rurale, en prenant un paysan des Hautes-Alpes.
Parce que du coup, c'est une fiction, mais qui s'inscrit dans le réel.
Voilà, alors le mot fiction se conjugue uniquement avec les personnages. Donc les personnages sont inventés, l'histoire est parfois abracadabrante et frôle la réalité, donc on est un peu entre la magie de l'histoire et l'histoire de la magie. Et donc tous les lieux sur lesquels j'ai écrit sont des lieux sur lesquels je suis allé chercher l'inspiration. Donc là, vous voyez le titre, Le Chevalier de Théopolis, c'est vraiment le titre qui m'a sauté aux yeux quand je suis allé du côté du Dromont, et notamment voir cette fameuse pierre écrite sur laquelle Dardanus avait inscrit cette cité de Dieu enfin, qui existait à l'époque romaine.
Oui, parce que Théopolis, du coup, ça vient du grec et ça veut dire cité de Dieu.
C'est la cité de Dieu.
Ouais.
Donc vous avez du côté, juste avant Saint-Genier, une roche écrite qui est très impressionnante. Hein. Vous passez Sisteron. Après, vous avez un panneau Saint-Genier, la route du temps. Donc moi, je me suis arrêté à cette roche écrite, à cette pierre écrite, pardon. J'ai pris des photos et je me suis dit, là, j'ai un sujet, là, j'ai un sujet. Et donc cette cité de Théopolis, qui pour moi était une fiction qui était dans mon imagination, eh bien, l'imagination a fertilisé, et donc la cité de Théopolis, je l'ai fait exister dans ce roman. C'est, si vous voulez, une sorte de, pour mon héros, une sorte de passage intemporel dans lequel il rencontre l'un de ses ancêtres.
Et vous avez toujours été passionné du Moyen-Âge, de
oui, parler d'époque romaine. Oui, je suis passionné par les ordres de chevalerie. Ça, c'était une empreinte que j'ai depuis l'enfance, parce que j'ai grandi près de la place du Terreau, donc la place du Terreau où il y avait le palais des commandeurs des hospitaliers de l'ordre de Malte. Et j'ai aussi vécu 10 ans dans l'île de Malte et j'ai travaillé dans le tourisme sur des édifices construits par les chevaliers hospitaliers, à La Valette notamment.
Et Valette, c'est le nom de famille de votre personnage principal.
Voilà, exactement. Et en plus, Valette, c'est le nom de famille de ma lignée maternelle. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le nom de ce héros, qui s'appelle Melchior Gaspard Balthazar Valette, donc qui porte le nom des rois mages, donc j'ai trouvé ça assez cocasse. Donc en surfant sur les archives du département 05, pour ma propre généalogie, la famille Valette, donc, Je tombe sur un extrait de Naissance et je vois Gaspard, Balthazar, Melchior, Valède. Je me suis dit, oh là là, quel nom de héros. Je scanne l'extrait de Naissance, je le prends et je me dis, bon, il faut que je crée une histoire avec ce personnage parce que peut-être qu'il fait partie de mon ascendance. Mmh. Je commence à travailler un petit peu l'histoire et puis j'agrandis au scan l'extrait de Naissance. Et là, je m'aperçois que en fait, Melchior Valette est décédé 2 mois après sa naissance. Là, je me suis dit, est-ce que j'arrête l'histoire ou je la continue? Et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais lui donner un destin. Donc ce héros qui s'appelle Melchior Valette, qui est né sous le régime napoléonien, il est né le 13 Messidor de l'an 11 de la République française.
C'est vrai que sous Napoléon, il y avait un autre calendrier.
Voilà, donc là, je me suis basé sur le calendrier républicain, puisque c'était marqué dans son extrait de naissance. Ce héros grandit dans les Hautes-Alpes, et il rencontre un devin, donc un devin qui est quelqu'un qui est issu du paganisme celte, par exemple, du chamanisme et tout, et qui va le mettre en contact avec les forces de la nature, comme le torrent de l'Infernet, par exemple. Ensuite, il est aussi aidé par un érudit, donc qui est un ancien instituteur qui s'appelle Monsieur Joseph Villaret. Donc lui, c'est celui qui représente la raison et la connaissance. Et il est aussi aidé dans sa tâche par le père Albran, donc qui est le curé du village et qui lui donne une dimension spirituelle, puisque chaque fois il amène à visiter des lieux comme l'abbaye de Boscodon, l'église Notre-Dame d'Aquilon de Guillestre, et aussi l'église Notre-Dame de Romigier à Manosque, puisqu'il y a un passage qui se déroule à Manosque.
Et du coup, pour revenir aux questions d'archives, est-ce que c'était votre ancêtre ou pas alors?
C'est possible. Okay. Étant donné qu'il est décédé 2 mois après sa naissance, donc il faisait partie de la famille Valette, donc fort possible qu'il soit lié à mon ancestralité. Donc j'ai émis cette théorie. Voilà, j'ai émis cette théorie que ce jeune homme qui avait le nom des rois mages devait avoir un destin. Donc son destin est de protéger l'humanité contre des forces obscures. Donc là, on en revient un petit peu à Star Wars, entre les Jedi et les Sith. Et donc il combat des adversaires redoutables, notamment Darkhan le Rouge, qui est issu, lui, d'une lignée de sorciers babyloniens.
Et du coup, est-ce qu'il est nécessaire de lire les 3 autres romans avant? Ou c'est complètement autonome?
Alors, c'est complètement autonome, oui, vous avez bien fait de le préciser. Alors, dans le premier roman fiction qui s'appelle La lignée des justes, donc là, je fais un mouvement de groupe, c'est-à-dire que je développe des personnes qui sont pareilles que Melchior, qui sont des gens très simples, très ordinaires, qui, de fil en aiguille, se trouvent des pouvoirs un peu supranaturels, je dirais. Donc là, je les ai appelés, dans le premier roman, les mercenaires spirites. Dans le deuxième roman, qui est un petit peu plus virulent, qui s'appelle le Vibrato Mundi, c'est le même combat, avec toujours un effet de groupe. Là, j'ai un petit peu modernisé la sauce, puisque j'ai mis la théorie d'une corporation maléfique avec des sorciers noirs qui veulent gouverner le monde et asservir l'humanité, c'est-à-dire mettre l'homme ordinaire en esclavage. Et donc là, les gardiens psychotemporels de l'humanité arrivent, arrivent à sauver l'humanité des forces obscures. Je résume chaque fois. Dans le cas de Melchior Valette, j'ai enlevé l'esprit d'équipe, là, et je suis passé d'un sport individuel. Donc lui, il est tout seul pour développer son pouvoir, et il est aidé dans sa tâche par un prêtre, un devin et un érudit.
Où est-ce qu'on peut retrouver les livres?
Alors, le livre Le Chevalier de Théopolis est en version numérique et papier sur le site librinova.com, et vous pouvez le commander ou le réserver en librairie en précisant que le distributeur y achète.
Ok. Et comment vous trouvez toute cette inspiration pour écrire des histoires?
Alors là, l'inspiration, c'est regarder la réalité telle qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, je fais face à un lieu, par exemple, comme le plateau de Ganagobi. Je dis, qu'est-ce que je peux faire au plateau de Ganagobi? Alors je fais un tour, je prends une photo, je vois un chêne, je le prends en photo, je dis, oh, ce chêne, il faut que je fasse quelque chose avec. Donc je le mets sur l'ordi, je prends des notes, et après, les lieux, si vous voulez, s'entremêlent ou s'entrechoquent dans ma mémoire. Et là, il y a une forme d'imagination qui jaillit, et donc j'arrive à trouver l'histoire, et j'insiste bien, à partir de lieux réels. seuls les personnages entrent dans la fiction. Donc c'est une forme de petit paradoxe que j'aime bien développer dans mes écrits.
Vous partez des lieux, donc c'est vraiment la chose qui fait voyager votre
voilà,
imagination.
C'est aller sur les lieux,
des personnes,
aller sur les lieux. Aller sur les lieux, par exemple, si je décris une longue randonnée dans mon premier roman, j'y suis allé sur les lieux. J'ai repéré le lac de Morgon, le passage des pyramides, tout ça. J'y vais dessus. Donc après, j'y vais, mais avec le carnet de notes pour dire qu'est-ce qui peut se passer là.
Je vous remercie pour cette présentation.
Oui, mais c'est moi qui vous remercie. Donc, Le Chevalier de Théopolis, ça, c'est un titre qui me tenait à cœur, puisque nous sommes face à quand même une période très difficile. Et je vous donnais une forme d'espoir en disant que, écoutez, les gens les plus simples, les plus ordinaires, et même ceux qu'on sous-estime, peuvent avoir un destin fabuleux. Voilà mon message.
Il y a toujours un message derrière. Est-ce que l'art est politique ou pas?
Là, pas de politique. C'est uniquement un développement à travers un potentiel que l'homme a à l'intérieur de lui-même et qu'il peut développer. S'il a la chance, comme le chevalier de Théopolis, de remonter la lignée de ses ancêtres templiers et de retrouver un pouvoir intérieur qui lui est propre. Les Jedi ou les œuvres de Tolkien qui sont à peu près pareilles, moi je les ai fait version alpine.
Ça a l'air très sympa.
Voilà.
Je vous remercie. Je vous laisse conclure ou vous avez tout dit?
Alors, j'ai pratiquement tout dit. Non, vous avez rien oublié. Donc là, la généalogie peut mener à un roman. Un point de départ, il y a toujours un point de départ pour quelque chose de créatif. Parfois, c'est beaucoup d'intellectualisme et d'analyse qui font qu'on crée un roman. Là, c'est un peu la généalogie et l'histoire aussi. L'histoire du Moyen-Âge et puis l'histoire de nos ancêtres celtes aussi, puisqu'on ne les oublie pas. Leur présence est très forte dans le sud-est de la France.
Et les lieux, du coup.
Et les lieux, oui,
et les
oui.
Lieux. On le redit, Didier Lauterborn, Le Chevalier de Théopolis, disponible sur librinova.com. Ou à commander en librairie.
Librairie, FNAC, Cultura, voilà. Parce qu'il y a aussi une version numérique, donc qui est plus commercialisée par Librinova. Parce qu'on fait toujours les deux maintenant, on est obligé de faire deux formats.
Oui.
Donc le format, ça fait quand même plus de 350 pages. Mmh. Il y en a qui préfèrent le numérique parce que c'est plus pratique et c'est moins cher. Voilà. Moi, je suis resté un peu entre les deux. Donc voilà.
Et ben, merci beaucoup, Didier.
Merci à vous.
On se quitte, on met la fin de... Era Ameno.
Ah oui, avec plaisir.
Là, le dans l'ambiance.
On reste dans l'ambiance un petit peu de Théopolis.
Allez.